Poésie présente Luna de Serena Giuliano, lue par l'autrice. À mes amis, vi voglio bene. Napoli è mille color, Napoli è mille paure. Napoli è un solo mar, Napoli adora il mar. Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa, e ognuno aspetta a short. Napoli, c'è mille couleurs. Napoli, c'è mille peur. Napoli, c'è un soleil amer. Naples, c'est l'odeur de la mer. Naples, c'est du papier sale. Personne ne s'en soucie. Et chacun attend son sort. Pino Daniele, Napoulin. Chapitre 1. Je n'étais pas rentrée à Naples depuis 7 ans. Un refus catégorique de remettre les pieds dans la merde. Dès la descente de l'avion, je réalise combien cette ville ne m'a pas manqué. Je suis immédiatement agressée par le bruit, les Napolitains indisciplinés, au mieux beaucoup trop familiers, au pire carrément grossiers. Devant l'aéroport, 2 hommes ont déjà tenté de me vendre des chaussettes. Je suis là depuis 30 secondes, je n'ai même pas encore eu le temps de me dégourdir les jambes, et des types veulent me vendre des chaussettes. Je les rembarre d'un geste de la main et d'un regard noir. J'ai évidemment droit à un « Oh là là, susceptible la signorina !» Mais qui, en sortant d'un avion en plein mois de mai et sous 25 degrés, se dit « Tiens, il me faut absolument des chaussettes !» Changer de business, les mecs. Au vu de ce qui m'attend, là tout de suite, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un shot de grappa. Je grimpe dans le premier taxi de la file. « Ospedale del Mare, s'il vous plaît !» Je sais que c'est une erreur, mais je n'ai pas vraiment le choix. Il ne faut jamais dire à un Napolitain que tu dois te rendre à l'hôpital, jamais. L'homme doit avoir une 60aine d'années. Il se retourne, l'air sincèrement inquiet, et finit par me questionner. « Oh mon Dieu, tu vas à l'hôpital, ma fille? Tu es malade? Quelqu'un de ta famille est malade? Je suis désolée, je prierai le Seigneur pour toi, je prierai San Gennaro. Tu veux manger quelque chose? On peut s'arrêter à la pâtisserie de ma femme si tu veux, c'est sur le chemin. Elle fait des sfogliatelles à tomber par terre. Tu guéris de tout avec ça. » Le vouvoiement, ici, c'est comme la banquette arrière. On s'assied dessus. Je mets fin à la conversation, enfin au monologue, un peu fraîchement. « Non, merci. Veuillez démarrer, je suis pressée. Allons-y. » J'ai le nez dans mon portable et mes écouteurs vissés aux oreilles, pour dissuader mon chauffeur de tout nouvel interrogatoire. Le trajet ne devrait pas être long. Mon cœur commence à s'emballer. J'augmente le volume de la musique pour couvrir celui de ma peur. Ça ne fonctionne pas vraiment. J'ouvre un peu la fenêtre. On étouffe dans ce taxi. « Tu vas prendre froid, signori. La chaleur du printemps est un leurre, il faut se méfier. » « Moi, je dis ça pour toi, hein. Déjà que tu es malade, il faudrait pas rajouter une bronchite là-dessus. Moi, je mets une petite laine jusqu'en juin. Et grâce à ça, jamais un rhume, rien. » « Mais ce n'est pas possible, je suis maudite. » J'ouvre plus grand en défiant mon chauffeur du regard par le rétroviseur. Il sourit. Ici, jamais il ne regarde la route, en fait. Toi, tu es milanaise, c'est certain. Je ne me trompe jamais. Tu n'es pas de Naples, ça se voit. Meilleur compliment. C'est pas grave, signori. Personne n'est parfait, tu sais. Hôpital de la mer. Ce nom fait presque rêver. On pourrait penser qu'on y soigne des dauphins. Mais le silence qui pèse dans le service de neurochirurgie ne présage rien de cet ordre. C'est à croire que l'on chuchote de peur de se faire prendre par la mort. Cela ressemble à une partie de cache-cache qui n'aurait rien de drôle. Il n'y a bien que la faucheuse pour réussir à faire baisser d'un ton un napolitain. Je suis devant la porte 217 depuis plusieurs minutes, sans trouver le courage de la pousser. Elle ne va pas s'ouvrir toute seule. L'infirmière me sourit, d'un vrai sourire bienveillant, puis elle s'éloigne. J'inspire un grand coup et je plonge, tête la première. Chapitre 2. Mon oncle me saute dessus, me serre dans ses bras, me scrute et me dit tout un tas de choses que je n'entends pas. Je suis figée. Dans le lit devant moi, un homme livide, les yeux enfoncés dans leurs orbites noires et le nez tuméfié. Il paraît que c'est mon père, mais je ne le reconnais pas. Son visage est bouffi, un bandage recouvre toute sa tête, ses mains pleines d'hématomes sont reliées à des cathéters. On le croirait mort. Mais si c'était le cas, il serait à la morgue, quelques étages plus bas. Et cela rendrait les choses peut-être moins difficiles. Je tente de me concentrer sur les paroles de Zio Gerardo. J'ai les oreilles bouchées à cause du vol et je m'aperçois que mes écouteurs y sont toujours vissés. Il gesticule beaucoup, il a le visage plus rouge que dans mes souvenirs, et il a encore rapetissé. Ou alors, c'est moi qui ai une poussée tardive de croissance. Peu probable, j'ai 33 ans. Je comprends, il y a 3 jours, n'arrivais plus à parler, liquide, cerveau, tumeur, opération, miracle. Lorsque j'ai reçu l'appel de l'unique frère de mon père, jeudi dernier, je l'ai ignoré. J'ai fait de même avec les 10 suivants. C'est un SMS de ma mère qui m'a convaincue de finir par décrocher. « Ma chérie, réponds à Gerardo. Ton père est à l'hôpital, il va falloir que quelqu'un y aille. » Sous-entendu, ce ne serait pas elle. Depuis le divorce, ce ne serait plus jamais elle de toute façon. Mais si l'on peut divorcer d'un mari, on ne divorce pas d'un père, malheureusement. J'ai donc dû m'y coller. C'est étrange, je ressens quelque chose de douloureux en plein milieu de la poitrine. Je n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Un peu jeune pour une crise cardiaque, non? Plus je m'approche du lit, plus la douleur se fait vive. Et puis je comprends que ce qui me fait mal, c'est de le surprendre ainsi. Depuis des années, je suis persuadée de me foutre éperdument de ce type. Et voilà que mon corps me dit le contraire. J'ai toujours connu cet homme vaillant. Et que je prends soin de ma petite personne, et que je fais mon sport tous les matins, et que je surveille mon alimentation. Dans cette ville, ce dernier point relève de l'exploit. Rien à voir avec cette chose mourante sur ce lit d'hôpital. J'ai vu le professeur il y a 15 minutes. Tu ne le verras plus avant demain. Il dit que la dernière opération s'est bien passée. Que maintenant, il va lui falloir du repos. Les visites sont bientôt terminées, rentre à la maison. Gina est allée préparer ta chambre et faire quelques courses pour que tu ne manques de rien. Je vais te déposer. Je vais plutôt prendre une chambre d'hôtel. Ne dis pas de bêtises, Luna. Allons-y, ta cousine nous attend.